Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle.
Il renouvellerait la face de la terre.
Prions, Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, ou de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pidis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous avançons dans le chapitre second de Saint Matthieu. Donc dans le polycopier, nous en sommes en haut de la page 12. Donc la dernière fois, je vous ai donné ce long texte de Mgr Gaum concernant l'étoile, puis justement les rois mages. Je vous conseille beaucoup ce livre de Mgr Gaum. Elle s'appelle les biographies évangéliques. C'est une splendeur. Encore une fois, n'écoutez pas les racontards de certains cédévacantistes qui prétendent que Mgr Gaum était un fidéiste, plus ou moins hérétique, c'est complètement faux. Deuxième accusation contre lui, on l'accuse de ne pas donner ses sources. Il suffit d'ouvrir ses bouquins, chaque bas de page, il y a toutes les sources de ce qu'il avance. Seulement, il n'est pas aimé parce qu'évidemment, il est très traditionnel. Il donne toujours l'interprétation traditionnelle de l'Église. C'est ça qu'il faut, c'est surtout en matière d'exégèse. C'est certainement, s'il y a un domaine dans lequel il faut fuir l'esprit de nouveauté, c'est bien l'exégèse. Bien l'exégèse. Le pape Saint Pidis, justement, dans son encyclique Pacem Dei, dans les commentaires qu'il fait sur le modernisme, il dit bien que à la base, il y a l'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés. Donc ne pas avoir l'esprit de nouveauté, surtout dans ce domaine-là. Donc on a vu l'histoire des rois mages. On va insister un peu plus sur les sept étoiles. Donc, j'ai déjà dit pas mal de choses avec le texte de Mgr Gaum. Donc, l'étoile représente plusieurs choses selon les pères de l'Église. Mais une chose qui est très intéressante, les pères expliquent que l'étoile représente surtout la foi catholique. Et d'autre part, représente la vocation. Et enfin, l'âme en état de grâce. Donc on voit trois sens. La foi, la vocation, l'âme en état de grâce. Bon. Donc là, il y a des textes magnifiques, je vais vous en lire certains des pères, donc, qui montrent bien donc, cette étoile qui monte dans une âme, l'âme qui est dans l'obscurité, qui commence à voir la lumière de l'étoile, qui guide vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le symbole évidemment de la vocation religieuse, notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence à apparaître à une âme et lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. D'accord ? Alors c'est aussi le symbole de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi est claire, la foi réchauffe et la foi guide. Et il faut bien faire comprendre que la foi guide toujours vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'étoile amène ceux qui la suivent à la crèche. Et autre chose très importante, on va voir ça avec les textes des pères. Les pères de l'Église expliquent que dès que les rois mages rentrent dans la ville de Jérusalem, l'étoile disparaît. Pourquoi ? Parce que la ville de Jérusalem représente le monde. Donc quand on est dans le monde, ben, évidemment, on ne peut plus entendre le bon Dieu, on ne peut plus voir le bon Dieu, parce que le monde, c'est l'obscurité la plus complète, personne ne s'occupe de Dieu, et donc, on ne voit plus l'étoile. Et dès qu'ils ressortent de la ville de Jérusalem, tout de suite, l'étoile leur réapparaît, et ils sont pleins de joie, dit l'Évangile. Donc voilà le texte. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit, allez, informez-vous avec soin de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Voilà une chose très importante à voir, c'est que Hérode n'a aucune excuse. Parce qu'il a vu les rois mages, il a vu l'étoile, il a entendu parler de cette étoile, donc il savait très bien que la prophétie qui annonçait l'arrivée du Messie l'annonçait comme devant naître à Bethléem. Donc il savait tout. Et en toute connaissance de cause, c'est ce qu'on appelle ça, péché contre le Saint-Esprit, c'est la haine de la vérité commune, connue comme telle. C'est le pire péché qu'on puisse commettre. Strictement parlant, certains pères pensent que ça peut être commis que par le démon. Mais en fait, il y a des hommes qui peuvent le commettre. Là, on le voit très bien. C'est-à-dire, je sais très bien où est la vérité, et de façon parfaitement consciente, je lutte contre cette vérité dont je ne veux pas. Alors là, des pères donnent l'exemple à propos de la mauvaise foi. Et ils donnent l'exemple d'un des empereurs romains complètement perverti, Caracalla. Pour régner seul, tua son frère Geta dans les bras de sa mère, parce que ce dernier était associé avec lui dans l'Empire. Et pour masquer son crime, sous un dehors de piété, il plaça son frère parmi les dieux, disant « Laissons-le être un dieu du moment qu'il n'est pas vivant. » De la même façon, Hérode dit aux gens hommage qu'il adorerait le Christ comme Dieu, alors qu'il planait de le tuer comme homme et comme roi. Donc on voit très bien dans l'apparition de l'étoile et dans l'arrivée des mages que notre Seigneur Jésus-Christ vient pour tous les hommes. Ça c'est très important aussi pour lutter contre cette espèce d'idée totalement fausse qui apparaît surtout chez les modernistes, à savoir que c'est uniquement l'église des pauvres. Tout le monde est appelé à la crèche, les pauvres, les riches, les païens, tout le monde. Et là, on voit très bien que Hérode a reçu tous les signes, exactement les mêmes signes que les mages ont reçus. Les mages ont reçu le signe, ont vu le signe parce qu'ils ont ouvert leur cœur et donc obéissent au signe et trouvent notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'Hérode a vu les mêmes signes, n'ouvre pas son cœur, ne reçoit pas la grâce et est incapable de trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Et au lieu d'utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour se sauver, eh bien, il va utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour se damner. Rappelez-vous ce qu'avait dit, ce que dira un peu plus tard, lorsque notre Seigneur est présenté au temple, celui-ci, c'est la prophétie de Simon, cet enfant sera pour la résurrection à la chute. Résurrection de beaucoup en Israël, pas tous, de beaucoup, dit. Résurrection de beaucoup en Israël, résurrection ou la chute de beaucoup en Israël. Pourquoi? Parce que certains vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ et le trouver, certains vont le refuser. Oui. Alors, la tradition dit, ça c'est très intéressant, alors, la tradition dit que l'étoile est apparue 2 ans auparavant, mais que leur voyage a duré 13 jours. Donc ils ont vu l'étoile, c'est ce que la plupart des pères disent ça, que cette étoile était apparue 2 ans auparavant, et elle était pour eux depuis ce temps un objet d'étonnement, parce qu'ils ont d'abord demandé ce que c'était que cette étoile nouvelle. Au début, ils ont cru que c'était une étoile qui n'était pas visible avant, que d'un seul coup, on se rendait visible, et donc ils ont cru que c'était une étoile comme les autres étoiles. Et donc, comme c'était des païens, ils ont mis du temps à réaliser que c'était cette étoile dont parlaient les Écritures, parce qu'ils avaient une certaine connaissance des Écritures. Entre autres de la prophétie de Balaam. Donc, il faut donc admettre qu'ils n'apprirent ce que signifie cette étoile qu'ils voyaient depuis longtemps qu'à la naissance de celui qu'elle figurait. Et qu'en fait, ils ont suivi cette étoile sans savoir exactement où ils allaient. C'est un acte de confiance extraordinaire. Donc, c'est l'étoile du grand roi. Où on va, on ne sait pas. Combien de temps on va partir, on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va revenir, on ne sait pas. Est-ce qu'on va revenir, on ne sait pas. Dans quelles conditions, dans quelle situation va se trouver ce grand roi, on ne sait pas, on part. C'est donc c'est pour ça qu'on dit que l'étoile est le symbole de la foi extraordinaire de ces rois mages. Et donc, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu un enfant, derrière cet enfant, ils ont vu bien sûr l'homme, mais aussi le roi Dieu, ils ont offert leur trésor, et leur trésor sont symboliques, donc l'or du roi, l'encens de Dieu et la myrrhe de l'homme. Voyez. Et donc, c'est très important. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, amène les âmes à lui, mais à chacun à sa vitesse. Pas tout le monde de la même façon. On voit très bien la façon, par exemple, dont il va appeler les bergers, par exemple. Les bergers, on envoie un ange, voilà, le sauveur vous est né, allez et vous trouverez ce signe, un enfant enveloppé de l'ange. Les bergers partent, ils vont pourquoi? Parce que là, ils parlaient à des gens qui connaissaient les Écritures, qui savaient très bien que le Messie est arrivé. Alors que là, au contraire, ils parlent. Donc, pour des gens qui connaissaient les Écritures, les pères d'Église expliquent que Dieu va utiliser des êtres surnaturels, les anges. Au contraire, avec des païens qui ne connaissaient pas les Écritures, Dieu va utiliser des êtres matériels, l'étoile. Donc, ce qui signifie, ils n'apprirent ce que signifiait cette étoile qu'ils voyaient depuis longtemps qu'à la naissance de celui qu'elle figurait. Donc, ils ont déjà fait un acte d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, sans encore complètement comprendre les choses. Et Dieu, donc, ils sont revenus par un autre chemin pour éviter que l'enfant soit tué. Et vous savez que Monseigneur Gaume explique très bien dans son livre, c'est magnifique, que plus tard, quelques années plus tard, c'est Saint Thomas, en route pour les Indes, donc, qui va s'arrêter chez les rois mages, achever leur formation religieuse, les baptiser et en faire des apôtres. Et après, les rois mages ont commencé à prêcher l'évangile, ils sont tous morts martyrs, les trois sont morts martyrs. Ils sont canonisés par l'église Saint-Melchior, Saint-Gaspard et Saint-Balthazar. Donc, les pères disent à peu près tous la même chose, c'est-à-dire l'étoile est apparue pendant 2 ans avant qu'ils se mettent en route. Alors, est-ce que l'étoile au début ne bougeait pas? C'est une étoile mystérieuse. Je me demande qu'est-ce que c'est que cette étoile? Elle n'était pas là hier. Qu'est-ce qu'elle fait là? D'où vient-elle? Comment se fait-il qu'on ne la voyait pas avant? Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans, l'étoile s'est mise en mouvement. Et là, ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils se sont dit cette étoile manifeste, qui bouge de façon miraculeuse, contrairement aux autres étoiles qui bougent toujours sur le même orbite, de la même orbite. Là, au contraire, cette étoile s'est rapprochée de nous, nous indique un passage. Donc, il faut suivre. Ils ont fait un acte de foi, ils ont suivi. C'est pour ça que les pères de l'Église font remarquer que ces gens-là ont eu beaucoup plus de mérite à suivre notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils n'avaient vu aucun miracle de lui que des juifs qui avaient vu les miracles extraordinaires de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient vu la multiplication des pains, les résurrections des morts, la guérison des lépreux, des aveugles et des sourds, et qui commencent à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais, ils avaient beaucoup moins de mérite. Pourquoi? Parce que eux avaient vu les miracles de notre Seigneur, ce qui n'est pas le cas pour les rois mages. Pour cela, que encore une fois, on dit que l'étoile symbolise la foi et la vocation. C'est la vocation qui naît, la vocation à la sainteté, la vocation à trouver notre Seigneur Jésus-Christ, la vocation à la véritable Église. Donc, celui... les mages obéissent donc aux ordres d'Hérode pour chercher le Seigneur, mais non pour revenir le trouver. En cela, ils étaient l'image de ceux qui écoutent la parole de Dieu dans un bon esprit. Ils pratiquent les enseignements que leur donnent les prédicateurs vicieux, mais ils se gardent bien d'imiter leurs œuvres. C'est pour ça qu'ils ne vont pas retrouver Hérode pour lui indiquer où était l'enfant. Alors, cette étoile donc représente la voie. La voie, c'est la voie vers le Christ. Et c'est ça qui est le symbole de la vocation. D'accord ? Car par le mystère de son incarnation, le Christ est comme une étoile, étoile brillante, étoile du matin, qu'on ne peut voir dans les lieux où règne Hérode. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir cette étoile qui symbolise la foi qui appelle une âme à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de façon plus parfaite. C'est notre Seigneur qui s'arrête devant la table où Matthieu a tout son argent pour l'échange, son office de change. Viens et suis-moi. Point final, c'est tout. Il se lève et suit. Il trouve Pierre, Jacques et Jean en train de laver les filets de leur père. Venez et suivez-moi. Il se lève et suivez. Et donc, c'est vraiment. On sent bien qu'il y a un temps de préparation pendant 2 ans, puis l'appel. Venez, suivez-moi. Suivez l'étoile. C'est certain qu'ils ont dû recevoir des grâces, quand même, des grâces spéciales. Hein, parce que pour se mettre en route pendant 13 jours en plein désert pour suivre une étoile, il faut être un peu fou, humainement parlant. Et donc, ils ont dû recevoir des grâces, au moins certaines lumières. Mais les pères de l'Église expliquent bien, ce qui est très intéressant, qu'ils n'ont pas reçu toutes les lumières au début. Et qu'entre autres, ils n'ont pas été baptisés immédiatement, mais ils ont été baptisés plus tard par l'apôtre Saint Thomas. D'accord ? Donc, cette étoile, disent les pères, c'est la voie, c'est le Christ. Car par le mystère de son incarnation, il est comme une étoile, étoile brillante, étoile du matin, qu'on ne peut voir dans les lieux où règne Hérode, mais qui reparaît de nouveau là où habite le Christ pour nous montrer le chemin. Donc deux chemins, soit un chemin qui mène vers Hérode, soit un chemin qui mène vers le Christ. Nul ne peut servir de maître à la foi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez ? Donc ça montre bien, si vous voulez, le choix qui est pour chacun d'entre nous, où on prend le chemin qui mène vers Hérode, c'est le chemin du monde, les adorateurs du monde, les adorateurs des trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, ou le chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Si on va vers Hérode, c'est toute la richesse du monde moderne. Si on va vers notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Et c'est cette, cette, cette dualité, si vous voulez, qui est tellement importante. Tous les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'était comme ça. Hein. Donc, quand ils prenaient un chrétien, c'était vite fait, c'était vite réglé. On le mettait devant la statue d'un faux dieu, que ce soit Jupiter ou Mars ou Vénus ou je ne sais pas qui. Une déesse, une fausse déesse, une faux dieu, et puis il y avait un petit brasier au devant qui brûlait quelques charbons, et il y avait de l'encens à côté. Il suffisait de mettre une cuillère d'encens sur les charbons, et c'était fini. On les couvrait d'or, littéralement. Et ils pouvaient repartir avec leur papier pour pouvoir être libres de faire ce qu'ils voulaient. Et bien, il y a eu 14 millions de martyrs, 14 millions de personnes qui ont refusé, vous vous rendez compte? Vous rendez compte s'ils avaient vécu du temps de Bergoglio? Avec Bergoglio, ça aurait été même, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est toutes les religions se valent. Alors, toutes les religions se valent, les dieux des Romains, ça vaut les dieux des catholiques. Vous voyez ? Il y a même des petits malins qui disaient, oui, mais je vais verser de l'encens, mais au fond de moi-même, j'adore notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ben non. Voilà. Vous voyez ? Alors après, il y a un texte magnifique de Saint Rémy, grand Saint Rémy qui a baptisé Clovis. On peut encore dire que l'étoile figure la grâce de Dieu. Les trois symboles, la foi, la vocation, l'âme en état de grâce. Donc l'étoile figure la grâce de Dieu comme Hérode est le symbole du démon. Celui qui se sommeille au démon par le péché perd aussitôt la grâce, donc il perd l'étoile. S'il se détache du démon par la pénitence, il recouvre immédiatement la grâce, qu'il ne le quitte pas, qu'elle ne l'ait conduit jusqu'à la maison de l'enfant qui est l'Église. Et tout le symbole qui est derrière. Donc Hérode, c'est le monde. Quand on quitte Hérode, on quitte le monde, donc on retrouve la grâce qui nous amène vers notre Seigneur Jésus-Christ, la source de la grâce. L'étoile est donc la lumière de la foi qui conduit les âmes à Jésus-Christ et que les mages voient disparaître en s'arrêtant chez les Juifs, car en demandant conseil aux méchants, ils perdent la véritable lumière. Et on voit très bien que les pères de l'Église étaient imprégnés de vérité. Vous voyez, le faux écuménisme d'aujourd'hui, mais ça... Ça aurait fait hurler littéralement. D'essayer de faire croire, comme actuellement pratiquement tous les prêtres de l'Église du Vatican II le disent, que toutes les religions se valent. Mais pour un chrétien des premiers siècles, c'était une impiété totale. Vous voyez, c'est là où on voit jusqu'où on est descendu. Ce passage, je l'ai mis justement en gras parce que cette phrase est vraiment, vraiment splendide. Et donc c'est cette étoile qui apparaît dans l'âme, dans l'histoire de la vie des rois mages, représente l'étoile qui apparaît dans notre âme. Donc c'est la foi en général pour tout le monde, donc tout le monde est appelé à la foi, et pour certains, c'est la vocation. Donc tout le monde est appelé à la foi, tout le monde n'est pas appelé à la vocation. Et on voit très bien dans les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ prêche à tout le monde, c'est la foi à tout le monde. Tout le monde est invité à écouter notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, au sermon sur la montagne. Il ne fait pas de distinction. Les femmes, les enfants, les vieillards, les juifs, les pas juifs, les samaritains, les hérodiens, mais tout le monde est invité. Mais après, il va choisir 12 apôtres. Lui, ils viennent. Et bien, venez, suivez-moi. C'est là où on voit très bien, la foi est générale pour tout le monde. Tout le monde est appelé au ciel par la foi. Ben, jointe à la charité, bien sûr, mais pour certains, il demande plus. C'est donc, les pères disent, cette étoile, c'est donc la vocation. D'accord ? Alors, cette phrase, il faut vraiment la méditer. Quoi. On peut vraiment méditer sur des choses comme ça. Donc, celui qui se soumet au démon par le péché perd la grâce et donc perd la lumière. Comme il perd la lumière, il tombe dans l'obscurité du monde moderne, l'obscurité du péché. D'accord ? Donc, la lumière... C'est ce qu'expliquent les pères. La lumière, le feu qui donne la lumière a plusieurs fonctions. La première des fonctions, c'est éclairer. Donc la foi éclaire. Deuxièmement, elle réchauffe. Elle réchauffe les gens qui sont transis dans le froid du monde. Et enfin, elle guide. Elle guide et c'est l'arrivée vers notre Seigneur Jésus-Christ. La véritable foi ne peut pas guider une âme vers un autre que le vrai Dieu. C'est pour ça que dès que vous voyez une apparition qui prétend amener notre Seigneur Jésus-Christ par un autre vecteur, un autre moyen que l'Église catholique, vous pouvez être sûr que c'est pas de Dieu. Vous voyez, des fausses apparitions comme ça, une des pires, je crois que c'est, on en parle moins en ce moment, c'est Medjugorje, Nico Savi. Eh bien, à Medjugorje, c'était ça. Hein. Vicky, une des voyantes qui prétendait que la Sainte Vierge avait dit: mon fils respecte toutes les religions. Donc, en tant que catholique, on entend une phrase comme ça dans une apparition, on dit bon, ça, on a compris. Enfin, on, en faire la valise, on s'en va, hein, parce que ça veut dire que c'est pas de Dieu, ça peut pas être de Dieu, c'est pas possible. Il faut pas nous dire ce qu'on entend parfois, ah oui, mais comprenez, les temps ont changé. Les temps n'ont rien changé du tout, la foi ne change pas. Alors, chapitre 2, versets 10 et 11, en bas de la page 12, en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis ils envers leur trésor et lui offrirent pour présent l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, deux choses importantes. Première chose, la joie. N'oublions pas que un des signes par lequel on peut reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans une âme, c'est la paix et la joie. Tristesse, c'est pas de Dieu. La paix et la joie, au contraire, c'est de Dieu. Attention, la joie, pas l'excitation. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une joie intérieure. C'est pas une joie extérieure. C'est pas une espèce de bruit. La joie du monde moderne fait du bruit. Bon. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Alors là, donc, ils vont offrir leur cadeau, l'or, l'encens, la myrrhe. C'est un des points, c'est intéressant ça, c'est un des points d'exégèse sur lesquels les pères de l'Église ont le plus parlé. Les trois cadeaux des Romains. Il y a peu de choses, enfin, ils ont parlé un peu de tout, mais il y a peu de points sur lesquels ils ont autant délayé, autant expliquer les choses que sur ces trois points-là. Donc les pères de l'Église, il y a des pages et des pages sur pratique. Non, pas forcément. Je vais vous montrer justement dans les différentes. Ils sont d'accord sur les grandes lignes. Ils sont tous d'accord que l'or, c'est pour le roi, l'encens, c'est pour Dieu, et la myrrhe pour l'homme. Ils sont tous d'accord. Mais après, ils rajoutent des tas de choses. Alors, par exemple, beaucoup disent que l'or représente la sagesse. La myrrhe va représenter la pénitence, l'esprit de pénitence, la mortification. Et l'or représente la prière. Mais ils ont des tas de... Toute la page 13, par exemple, c'est que des textes des pères sur justement ces trois dons. Donc, j'ai pas tout pris, parce que si on commence à tout prendre, il faudra mettre une cinquantaine de pages, simplement avec citation des pères sur l'or, l'encens et la myrrhe. Bon, ce que j'ai fait, j'ai condensé les choses qui me plaisent le plus. Et puis ce qui me plaît le plus à moi, c'est pas forcément ce qui va plaire au voisin. On est bien obligé de faire un choix, on ne peut pas tout expliquer. Alors, en gros, si vous voulez, on retrouve à peu près quand même certaines grandes lignes. Donc, trois dons. Alors, les pères expliquent, beaucoup expliquent que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas un des rois qui a offert l'autre, un autre le roi, un des rois mages qui a offert une chose, un autre roi mage qui a offert le deuxième don, un troisième qui a offert le troisième don, mais chaque roi a offert les trois. Pour bien montrer l'unité, si vous voulez, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'humanité, de la divinité. Donc l'or, roi, parce que l'or est le symbole du pouvoir royal, l'encens à Dieu, parce que l'encens est utilisé comme symbole de la prière, et la myrrhe à l'homme, parce que la myrrhe était un baume, si vous voulez, une résine, en fait, qui était utilisée pour dessécher les corps. Dans certaines régions du monde, ils utilisaient la myrrhe pour embaumer les corps et garder la chair sans pourriture. Parce que les vers n'attaquent pas la chair qui est enrobée dans la myrrhe. Alors, après, les pères m'ont expliqué que l'or est aussi, bon, bien sûr, le symbole du pouvoir royal de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi le don de sagesse. Donc l'or représente la sagesse, et on verra aussi que certains pères voient dans ces trois dons les trois vœux du moine. Pauvreté, chasteté, obéissance. Ça, c'est très beau. Donc l'or est le symbole du vœu de pauvreté, l'encens du vœu d'obéissance et la myrrhe du vœu de chasteté. C'est le symbole de la mortification de la chair et donc du jeûne et de la chasteté. Vœu de pauvreté alors, vœu d'obéissance à l'encens et vœu de chasteté à la myrrhe. Alors, je vais vous lire certains de ces passages, des passages splendides des pères. Donc, voilà ce que disent les pères. L'or convient à la dignité royale, l'encens faisait partie des sacrifices offerts à Dieu, et la myrrhe sert à embaumer les morts. Et donc, c'est tout le symbole du mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est quoi? C'est le mystère de deux natures en une seule personne. Donc, la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est véritablement Dieu, parce qu'il est deuxième personne de la Sainte Trinité, est véritablement Dieu et véritablement homme. Il est Dieu pour nous sauver, il est homme pour mourir. Donc, puisqu'il va mourir, on apporte la myrrhe. La myrrhe qu'on utilise pour les morts. Bon, puisqu'il est Dieu, on apporte l'encens. mais en même temps à ce pouvoir royal de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît sur la croix, et donc on donne l'or. Sur les anciens, pas toujours, mais sur les anciens crucifix, en général les crucifix du Moyen-Âge, on voyait beaucoup de crucifix, donc notre Seigneur crucifié, et sur la tête, au lieu de la couronne de pin, il y avait la couronne royale. La couronne royale qui justement expliquait ça. Bon, et un autre symbole qui avait été repris par Constantin, bon, c'est pas forcément une bonne chose, mais Constantin avait parfaitement compris ça. Constantin, donc, c'est le premier empereur romain qui se convertit par l'influence de sa mère, Sainte Hélène, donc en 313. Et Sainte Hélène, c'est la mère de Constantin, c'est elle qui a retrouvé la croix. Donc, qui était perdue, on ne sait pas où elle était. Et elle a été retrouvée miraculeusement, et à côté de la croix, ils ont trouvé aussi le titulum, la pièce de bois sur laquelle était indiqué le motif de condamnation, qu'on voit souvent sur les crucifix par les quatre lettres J-N-R-J. Tout le monde croit que c'est INRI, c'est pas INRI, c'est J majuscule. Le J majuscule et le I majuscule sont identiques en latin. En fait, c'est J-N-R-J, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et puis, il y avait les clous. Les trois clous et la couronne d'épines, les tout ensemble. Donc les croix, vous savez qu'ils ont trouvé en fait trois croix, les croix des dolarons, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, les clous, la couronne d'épines et le titulum. Alors évidemment, il y a un premier problème qui s'est posé tout de suite à ce moment-là, quelle était la vraie croix de notre Seigneur? Et donc l'évêque de Jérusalem, c'était Zacharie, si mes souvenirs sont exacts, il allait chercher une femme percuse de qui ne peut plus marcher, complètement gravataire. Il a pris deux soldats, il a demandé aux soldats de poser la femme sur les trois croix successives. Et sur l'une de ces trois croix, elle a été immédiatement guérie. On savait que c'était la vraie croix. Et Constantin a pris un des clous, l'a fondu et l'a mis comme un cercle de fer à l'intérieur de sa couronne. Bon, le symbole est magnifique. C'est-à-dire qu'il a voulu que sa royauté soit fondée sur la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu un clou. Donc à l'intérieur de ce qu'on appelle la couronne des rois lombards, il y avait le troisième clou. Il y en a un qui est à Rome, à Basilique Sainte-Croix de Jérusalem, et le troisième est à Trèves, en Allemagne. Dans le trésor de Trèves, je l'ai vu il y a très longtemps, plusieurs années, avec la communauté quand j'étais à Lille, on est allé jusqu'à Trèves pour voir vénérer le clou de notre Seigneur. Alors, là, j'ai mis plusieurs textes des pères de l'Église, donc saint Augustin, ils lui offrirent de l'or comme à un roi puissant, l'encens comme à un dieu, la myrrhe comme à celui qui devait mourir pour le salut de tous. Donc, l'encens, donc le symbole, c'est très beau. L'encens représente la prière. Pourquoi? Parce que quand vous versez de l'encens, qui est une résine, sur des charbons qui rougis par le feu, eh bien, ils vont pas s'enflammer, mais ils vont dégager une fumée qui monte vers le sommet de l'Église, vers la voûte de l'Église. C'est le symbole de la prière qui monte vers Dieu. Saint Jean Chrysostome, que les mages ne comprissent pas alors la grandeur du mystère qui les faisait agir ainsi, ou la signification mystérieuse de chacun de leurs présents, peu importe, car la grâce qui leur avait inspiré toute cette conduite avait tout disposé selon les vues de Dieu. Donc vous voyez, il insiste bien que les rois mages n'ont pas tout compris à ce moment-là. Il en manquait encore quelque chose, et c'est pour ça que Dieu a voulu que Saint Thomas finisse cette formation, avant qu'il soit baptisé, et qu'ils aient à ce moment-là la force divine pour donner leur vie pour notre Seigneur Jésus. Alors voilà, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà le texte, c'est le texte de Saint Rémy en fait. Il dit, il ne faut pas oublier que chacun des trois rois mages ne présenta pas en particulier un seul de ces trois présents, mais que chacun d'eux les offrit tous les trois, proclamant ainsi tous les trois, par la nature de leur présent, le roi, le Dieu et l'homme, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Et donc, c'est pour ça qu'au lieu de séparer les trois dons sont rassemblés pour bien montrer que cette même personne est à la fois roi, Dieu et homme. L'or signifie la sagesse. Donc là, il y a une citation du livre de Salomon, le proverbe. L'or signifie la sagesse, au témoignage de Salomon. Un trésor désirable se trouve sur les lèvres du sage. Donc l'or n'est pas simplement le symbole du pouvoir royal, mais également le symbole de la sagesse. L'encens qui brûle devant Dieu figure la vertu de la prière. Selon ses paroles, que ma prière se lève comme l'encens en votre présence. Donc la prière qui monte vers Dieu comme l'encens, la fumée d'encens qui monte vers le ciel. Et la myrrhe est le symbole de la mortification de la chair. Nous offrons à ce roi nouveau-né l'or lorsque nous resplendissons devant lui de l'éclat de la sagesse. Nous lui offrons l'encens lorsque par la prière nous exhalons devant Dieu le parfum de nos hommages, et nous lui offrons la myrrhe en mortifiant par l'abstinence les vices de la chair. Et les pères de l'Église, je ne sais pas si j'ai repris les textes là, un peu le temps, mais les pères de l'Église expliquent, il y a des passages magnifiques des pères qui disent attention de toujours offrir les trois dons. Parce qu'ils disent il y a certains catholiques qui veulent bien offrir certains dons, mais pas les trois. Par exemple, il veut bien reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme homme, mais pas comme Dieu. Donc il donne la myrrhe, mais il ne donne pas l'encens. Ou certains veulent bien reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme homme et comme Dieu, mais pas comme roi, parce qu'ils refusent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux donc qui vont donner l'encens et la myrrhe, mais qui ne donnent pas l'or. Et donc il y a toutes ces symboles magnifiques des pères qui disent, attention, le bon Dieu attend de chacun d'entre nous les trois dons. L'or, l'encens et la myrrhe. Donc si je refuse l'or, je refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je refuse l'encens, c'est que je considère notre Seigneur Jésus-Christ comme la première des créatures, mais je refuse sa divinité, donc je suis un arien, c'est l'arianisme. Et si je refuse de lui donner la myrrhe, si je refuse son caractère corporel, le fait qu'il est homme. Et donc à ce moment-là, je nie sa passion, on tombe dans le docétisme et toutes les hérésies qui niaient la chair véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça, les pères expliquent bien, c'est la raison pour laquelle les rois mages, chacun, ont offert les trois dons ensemble. Pour bien montrer que les trois dons ne peuvent pas être séparés. Et les pères expliquent que le crime, c'est justement de vouloir séparer les choses. On veut séparer l'inséparable. Quand on veut séparer la divinité, l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a été toutes les premières grandes hérésies. Et donc, les premières grandes hérésies, ça va être justement sur ces trois points. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, Dieu, homme. Et donc, il y en a qui vont accepter une des trois qualités, mais pas les deux autres. Et donc, ça va être les premières grandes hérésies. Tout l'arianisme, c'est ça, la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le docétisme et les gnostiques, c'est la négation souvent de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on refuse de donner la myrrhe. Et puis, bien sûr, tous ceux qui refusent la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui refusent de donner l'or. Là, oui, c'est beau parce qu'ils disent bien que nous offrons l'or lorsque nous donnons, lorsque nous respondissons devant lui par l'éclat de la sagesse. La sagesse, c'est le plus grand des dons du Saint-Esprit. Donc nous offrons l'encens lorsque nous prions. Donc, celui qui ne prie pas refuse l'encens. Et nous offrons la myrrhe lorsqu'on mortifie les vices de la chair. Donc on voit déjà là apparaître la myrrhe, symbole de la vertu de pénitence. La myrrhe symbolise non seulement la vertu de pénitence, mais symbolise la mortification de la chair. Donc on va retrouver des tas de commentaires à faire dans les pères, j'ai pas le temps de tout expliquer parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais là on voit très bien les trois points qui commencent à apparaître, là, points que les pères de l'Église ont énormément expliqué et utilisé, c'est les trois dons, si vous voulez, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. Prière, jeûne, aumône. Prière, c'est contre l'orgueil. Le jeûne, c'est contre les concupiscences de la chair. Et l'aumône, c'est contre la concupiscence des yeux. Et c'était les trois grands. Bon, aujourd'hui, on a un peu perdu ça de vue complètement. L'aumône a pratiquement disparu. C'est très dommage. Dans les pays riches, il n'y a pratiquement plus d'aumône. Parce que justement, on s'est habitué à avoir l'État qui donne tout, à peu près, au moins aux migrants. À nous, non, mais aux migrants, oui. On s'est habitué à avoir donc des États qui donnent tout. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est peut-être une chose qui m'a le plus frappé dans les pays pauvres. Quand j'étais missionnaire, par exemple, au Mexique, donc des pays pauvres, en Amérique latine, la facilité avec laquelle les gens donnent. Vous voyez, beaucoup, vous allez à Mexico, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont estropiés, vrais ou faux, j'en sais rien, mais qui font la manche, qui demandent de l'aumône. Et beaucoup de gens s'arrêtent, donnent une pièce. Alors que dans les pays riches, d'abord il y en a beaucoup moins, et puis quand il y en a, pratiquement personne ne leur donne. Vous voyez ? Hein ? Voilà. Alors. La glose, c'était un texte des premiers siècles, on ne connaît pas beaucoup de choses. Il faut faire attention entre la glose et la gnose. La gnose, c'est une hérésie. La glose, c'était un texte dont on ignore d'ailleurs plus ou moins les auteurs, des tout premiers siècles de l'Église, qui était une espèce de ramassis, si vous voulez, toute une série de textes des pères mis un peu ensemble. Bon. Et c'est une grande autorité historique surtout. Donc ces trois hommes qui offrent à Dieu leur présent figurent, disent-ils, les nations venues des trois parties du monde. Ils ouvrent leur trésor en manifestant la foi de leur cœur par le témoignage qu'ils en donnent. Ils les ouvrent dans l'intérieur de la maison pour nous apprendre à ne pas étaler par vanité aux yeux du public le trésor d'une bonne conscience. Ils offrent trois présents, c'est-à-dire leur foi en la Sainte Trinité. On peut dire encore qu'ils ouvrent les trésors des Écritures et qu'ils en tirent les trois sens historiques, moraux et allégoriques. Ou bien la logique, la physique et la morale en tant qu'ils les soumettent à la foi. Vous voyez comment les pères voyaient toute une série de symboles derrière ces choses qui pour nous sont bon, alors l'enfant aimé, bon, ben d'accord, alors l'enfant aimé, et puis ça s'arrête là, quoi. Eh bien non, c'est bien plus que ça. Il y a un symbole derrière, d'accord. Par exemple, cette phrase, vous voyez, ils les ouvrent, les rois mages ouvrent leur trésor dans l'intérieur de la maison pour nous apprendre à ne pas étaler par vanité aux yeux du public le trésor d'une bonne conscience. Les pères d'Église expliquent que si je porte les dons de Dieu ostensiblement à la vue de tout le monde dans le monde, je vais me faire voler ces dons. Pourquoi la voleur va arriver, me donner un grand coup sur la nuque pour me voler les choses que je présente. Et donc il faut cacher les dons du monde d'une certaine façon. D'où la nécessité de la vertu d'humilité. Alors, les trois dons représentent évidemment, le chiffre 3 représente toujours la Sainte Trinité. Alors, il y a une querelle exégétique sur le thème de la maison. Parce qu'au verset 11 du chapitre 2, il est dit: entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère et se prosternant et l'adorèrent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison? Alors qu'au début, c'était une grotte. Alors, il n'y a pas certitude parmi les pères. Alors, certains pensent qu'au bout d'un certain temps, comme les gens étaient partis après le recensement, il y a eu des places qui se sont libérées, qu'ils ont pu trouver une petite maison. Mais d'autres pensent, et à mon avis, ils ont plus raison, qu'en fait, le mot maison est un signe générique. Ce que disent ici les pères. L'opinion la plus commune dit, c'est le troisième paragraphe de la page 13, l'opinion la plus commune dit que l'étable dans laquelle le Christ naquit est désignée sous le terme de maison, car les Hébreux appelaient maison n'importe quelle place dans laquelle des gens vivent. Donc, à cause du recensement général qui se déroulait déjà depuis plusieurs semaines ou mois, comme arrivait sur place une multitude de gens riches pour s'inscrire, il n'y avait plus de place pour Marie et Joseph qui étaient pauvres jusqu'au 13e jour après la naissance du Christ. Dieu permit cela pour mettre à l'épreuve la constance des mages, leur enseigner tant à eux qu'aux autres que le royaume du Christ consiste en pauvreté, humilité, mépris de ce monde et non les richesses terrestres avec son orgueil, ses pompes et ses palais. La Sainte Famille resta dans l'étable jusqu'à la purification. Purification, c'est le 2 février. Donc, en gros, notre Seigneur Jésus-Christ est resté avec ses parents dans cette grotte jusqu'à un peu plus d'un mois, quoi. Un mois, une semaine avant de sortir en Égypte. D'accord ? Alors, les pères de l'Église donc, font remarquer que la Sainte Famille a reçu aussi par ses dons une augmentation d'une série de vertus. Donc, par l'or, augmentation de la sagesse et de l'amour, par l'encens, augmentation de la dévotion, la vraie prière, et par la myrrhe, obtention d'une vie pure et non corrompue. Et donc, nous aussi, nous devons, c'est ce symbole, si vous voulez, qui est caché derrière, nous aussi, nous devons donc apporter à notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que nous allons communier pour le recevoir, apporter l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est notre adoration. L'or, c'est le respect devant celui qui a le pouvoir suprême au ciel et sur la terre. Dieu est un pouvoir total par puissance, par essence et par présence. Il y a parce qu'il est peut tout, parce qu'il est partout et parce qu'il est cause de tout. Et donc, il y a une humilité qui est nécessaire pour pouvoir communier de façon spirituelle. Deuxièmement, il faut donner aussi l'encens pour l'adoration. Et il faut donner la myrrhe pour mortifier notre chair, parce que ce n'est pas la mortification de la chair qu'on arrive à lutter contre les tentations, surtout les tentations d'impureté. pour ça que les anciens disaient toujours le jeûne contre les tentations d'impureté. Dans les, tous les conseils que donne par exemple Cassien, donc qui était, c'est lui qui a fondé l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Cassien donc avait été voir un peu tous les grands anachorètes et les grands maîtres de la spiritualité monastique en Égypte. Et donc il a ramené des livres magnifiques il écrit justement toutes ces choses-là. Et donc il montre bien que les moines anciens insistaient beaucoup sur ces trois choses. Donc le jeûne, l'aumône, la prière. Donc et il disait toujours quand il y avait des jeunes qui se plaignaient de alors, directeur spirituel de mortifier de tentation contre la pureté, jeûner. Au contraire, pour manifester la divinité, la prière. Et donc il passait souvent des heures et des heures le front contre terre, parce que c'était pour eux une manifestation de la divinité, l'honneur et du respect dû à la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'aumône, le jeûne et la prière. Alors, au milieu de la page 13, on continue un petit peu, là, je donne d'autres exemples, encore une fois, il y a d'autres choses, hein. Je vous ai donné que la crème, mais imaginez que derrière tout ça, il y a des textes sur les trois dons. Donc, les pères enseignent que les mages, illuminés par le Saint-Esprit, offrirent l'or au Christ comme au roi le plus sage, car la sagesse est comparée à l'or. Celui qui a la sagesse, il a la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc, celui qui a la sagesse, il a la richesse, la véritable richesse qui ne s'épuise jamais. L'encens est offert à Dieu qui, comme homme, est devenu le grand prêtre et le pontife. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, est grand prêtre. D'accord ? Pontife, c'est-à-dire celui qui fait le pont entre nous et lui. La mire au Christ comme homme, qui se prépare à mourir, à être enseveli pour la rédemption de la race humaine, et à ressusciter le troisième jour pour l'immortalité et la gloire éternelle. En effet, les corps des morts étaient ensevelis avec de la myrrhe pour qu'ils ne se corrompent pas. La myrrhe ayant la propriété de sécher l'humidité et de prévenir la génération des vers. Donc on arrivait à trouver parfois certaines momies, par exemple, égyptiennes, qui ont été conservées comme ça pendant des siècles et des siècles, pratiquement avec un corps presque souple, alors que la personne est morte depuis 2-3 millénaires, parce qu'elle a été conservée dans la myrrhe. Et si en plus de ça, il mettait la myrrhe et de l'aloès, et l'ensemble des deux, si vous voulez, mettait une espèce d'atmosphère humide, il enveloppait ça dans des linges, en plus, pour empêcher la dissécation. Et donc le corps ne séchait pas, et restait souple pendant parfois des années. Et ils ont trouvé des momies incas, donc qui avaient moins 600 ans, c'est pas 700 ans même, qui était souple comme si la personne venait de mourir, grâce à cette myrrhe, et surtout la myrrhe associée à l'aloès. Les médecins arabes savaient toutes ces choses-là. Alors, on a une phrase importante, Saint Léon le Grand, un grand pape. Les mages offrirent donc l'encens à Dieu, reconnaissant sa majesté divine, la myrrhe à l'homme, reconnaissant sa mortalité humaine, et l'or au roi, reconnaissant son pouvoir absolu, son pouvoir royal. Vénérant avec sagesse le divin et la nature humaine unis dans une personne, ce qu'ils croyaient dans leur cœur, ils le montraient avec leurs dons. Ça, c'est ce qui résume tout le symbole, si vous voulez, des trois dons. Ce qu'ils croyaient dans leur cœur, ils le montraient avec leurs dons. Donc, ils voient un enfant, un bébé, et derrière le bébé, ils voient Dieu, ils voient l'homme, bien sûr, et ils voient aussi le roi des rois. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, où le monde moderne refuse catégoriquement de donner à notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, ils ont refusé de donner l'or. Ça, c'était toute la laïcité, le laïcisme actuel, par exemple, en France. Et c'est le refus de donner l'or. On refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, tout simplement. Alors, on veut que l'homme devienne roi, donc on refuse de donner l'or. Et refusant de donner l'or, évidemment, on tombe dans le laïcisme. Ensuite, vous avez ceux qui refusent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les modernistes. Et puis ceux qui refusent aussi l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui refusent la passion, qui refusent la nécessité, la souffrance. Voilà, vous avez encore d'autres textes. Là, j'ai trouvé aussi un texte chez les pères. Là. La tradition nous dit que le Christ, donc, est né un dimanche, dimanche de 25 décembre, le jour du Seigneur, qui s'est offert sur la croix un vendredi. Les mages offrirent leur don un vendredi, soit le troisième jour après la naissance du Christ. D'accord ? Et par tradition, c'est le 6 janvier. Et donc, en ce 6 janvier, mais à des années différentes, il y a trois choses importantes qu'on retrouve dans la liturgie, tout dans les antennes des Vêpres, pour la fête de l'Épiphanie. Donc, trois choses importantes de ce qui s'est passé le 6 janvier. D'abord, l'arrivée des rois mages. Ensuite, le premier miracle à Cana, qui avait lieu le 6 janvier, et le baptême de notre Seigneur. Ce qu'on appelle les trois théophanies. Théophanie, c'est la manifestation de notre Seigneur. Trois théophanies, l'épiphanie, première théophanie, deuxième théophanie, le premier miracle de notre Seigneur, troisième théophanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste au Jourdain. Enfin, il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a aussi, par exemple, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au mont Tabor, la transfiguration, c'est une théophanie aussi, mais elle n'a pas eu lieu le 6 janvier. Alors que les deux autres ont lieu en 6 janvier, c'est pour ça que l'Église, dans sa liturgie de l'Épiphanie, en parle, si je trouve le texte là, il y a une antienne magnifique des... Je crois que c'est au Vêpres, alors si je trouve rapidement, parce que j'ai oublié de préparer ça. Pour la fête de l'Épiphanie, je crois que c'est l'antienne des Vêpres. L'antenne des deuxièmes vêpres, je ne sais plus exactement où c'est. Ah voilà, c'est l'antenne des deuxièmes vêpres de la fête du 6 janvier, l'épiphanie de notre Seigneur. Trois miracles ont marqué le saint jour que nous fêtons. Aujourd'hui, premier miracle, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Deuxième miracle, l'eau s'est changée en vin à la table des noces, c'est Cana. Troisième miracle, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans la Jourdain afin de nous sauver. Alléluia. Et après, donc, l'oraison qui est splendide, dans ce jour où, par le cours d'une étoile, vous avez conduit les peuples païens à la connaissance de votre Fils unique, nous vous demandons, Seigneur, qu'après nous avoir donné déjà de vous connaître par la foi, vous nous conduisiez jusqu'à la contemplation face à face de votre sublime majesté par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, oui, alors on retrouve dans la liturgie donc c'est triple théophanie. Et ça, c'est la première.
Oui. Ça veut dire quoi, phanie ?
Théophanie ?
Théodieu.
Je ne sais pas, moi je n'ai pas fait de grec, je ne peux pas vous répondre. La théophanie, je sais que ça veut dire, la traduction c'est manifestation. Donc une triple manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors théo, je sais que ça veut dire Dieu en grec. Alors, phanie, je pense que ça, c'est une certaine bonne racine grecque, mais alors là...
Épiphanie aussi, épi ça veut dire quoi?
Non, je ne sais pas. Pour une colle, je ne sais pas, j'ai pratiquement pas fait de grec. Ça me manque d'ailleurs, je regrette un peu. Je regrette de ne pas en avoir fait, mais c'est comme ça. Alors, on avance, on va finir cette page 13. Là. Alors, où est-ce qu'on en est là? Donc, tropologiquement, donc sur-tropologique maintenant. Donc, d'abord, le sens allégorique. Je rappelle que le sens allégorique, c'est-à-dire l'Ancien Testament symbolise quelque chose dans le Nouveau. Donc, les dons, si vous voulez, symbolisent quelque chose derrière. Le symbole, c'est quoi? C'est le Christ. C'est le Christ en majesté qui apparaît là, qui est caché sous les voiles, le linge qui le maintient comme petit enfant, comme petit bébé. Hein. Vous verrez un enfant nouveau-né emmailloté de l'ange. D'accord ? Donc c'est le symbole, si vous voulez, de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père, qui dépend totalement de notre Seigneur Jésus-Marie, qui ne peut même pas, lui qui est créateur du ciel et de la terre, ne peut même pas se nourrir sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Marie et le lait de notre Seigneur Jésus-Marie. D'accord ? Donc ça, c'est le sens allégorique. Alors, donc, sens allégorique, c'est l'essence, le sens général, celui qui a été expliqué déjà, l'or au roi, l'encens à Dieu, la myrrhe à l'homme. Ensuite, le sens tropologique, je rappelle que le sens tropologique, c'est le sens qui s'applique à chacun d'entre nous, pour nous. Sens moral, pareil. Sens moral, sens tropologique, c'est pareil. L'or est la charité, l'amour est la sagesse. Nous offrons l'or si nous brillons la lumière de la sagesse. C'est-à-dire, si j'ai en moi la sagesse, c'est-à-dire si j'ai en moi l'état de grâce, parce que je ne peux pas avoir les dons du Saint-Esprit, dont la sagesse, sans l'état de grâce. Donc, si j'ai en moi l'état de grâce, eh bien, j'offre à Dieu la sagesse. L'encens, la prière et la dévotion, nous l'offrons par la prière fervente. J'irai à la montagne de myrrhe, à la colline de l'encens, cantique des cantiques. Et la myrrhe, la mortification. Et donc, à la fois, tout est nécessaire. La charité et la sagesse, l'encens de la dévotion, de la prière, et la mortification. La mortification, le symbole de l'esprit de pénitence. Vous voyez ? Symbole de l'esprit de pénitence. Donc, je sais le parce que sinon, il va. Le chien va attraper les rideaux. Voilà. Donc, c'est des phrases magnifiques, ça. Donc, l'or et la charité, l'amour et la sagesse, l'encens, la prière et la dévotion, la myrrhe, la mortification. C'est-à-dire, nous le ferons pour la mortification des vices de la chair. Là, il y a une citation du Cantique des Cantiques. Mon art a donné son parfum, mon bien-aimé, pour moi, comme un sachet de myrrhe. Donc, la myrrhe représente l'esprit de pénitence, tout simplement. D'accord ? Donc, l'encens représente aussi, d'après beaucoup de pères, l'obéissance, hein, par laquelle l'homme offre à Dieu sa propre volonté et intelligence, c'est-à-dire son être tout entier comme un holocauste d'encens. Holocauste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, l'holocauste, c'est la destruction totale d'un objet sacrifié à la divinité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce terme qui a été littéralement utilisé maintenant constamment pour la Shoah, comme ils disent, alors que le mot holocauste dans l'Ancien Testament a un sens très précis. C'est l'offrande totale d'un être à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas utiliser du tout le mot holocauste parlant des souffrances des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si cette souffrance était réelle, effectivement ils ont beaucoup souffert, ça c'est vrai, mais ne pas utiliser le mot holocauste qui a un sens très précis dans l'Église catholique. Bon. Un holocauste d'encens, c'est-à-dire c'est l'holocauste de sa volonté propre. C'est ça qui est, c'est le symbole qui est derrière. Donc quand j'arrive à la crèche, moi je suis appelé à la crèche comme les rois mages, donc je dois offrir l'encens qui représente la mortification de ma volonté propre. Mon Dieu, que votre volonté soit faite et pas la mienne. La myrrhe représente le jeûne, la mortification de la chair, et donc ce qui en découle, la chasteté. Donc je vous ai expliqué que la mortification de la chair était le jeûne, était la première chose qui était conseillée par les anciens pour pratiquer la vertu de pureté. Donc beaucoup de pères aussi pensent, je l'ai déjà expliqué rapidement avant, que les trois vœux de religion sont ici mystiquement représentés. Par l'encens, le vœu d'obéissance. Par la myrrhe, le vœu de chasteté. Par l'or, le vœu de pauvreté. Donc par l'encens, le vœu d'obéissance. Pourquoi ? Parce que l'encens est le symbole de la dévotion. L'obéissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de même que le grain d'encens va être complètement brûlé pour donner cette bonne fumée, cette bonne odeur qui monte vers le ciel, c'est le symbole de la volonté propre qui est brûlée sur l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. La myrrhe, le vœu de chasteté. Donc pourquoi la myrrhe se représente la vertu de pénitence ? Surtout le jeûne, qui est nécessaire pour pratiquer les vertus de chasteté. Et enfin l'or, pour le vœu de pauvreté. Dans le sens que l'or, justement, l'or divin remplace l'or des hommes. Donc je méprise l'or des hommes, je méprise les richesses humaines pour pouvoir trouver et rechercher les richesses divines. C'est-à-dire, j'abandonne les richesses qui passent pour m'attacher aux richesses qui ne passent pas. Rappelez-vous ces phrases de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile qui parle de ceux qui conservent des trésors dans des endroits où la mythe va passer, va tout détruire. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les trésors humains, bon ben on en donne de la valeur, en fait ça n'a aucune valeur. Par contre, les trésors divins ont une valeur.
Là, oui, votre cœur,
trésor, et votre cœur, oui, d'accord, plusieurs passages. Donc, par ces trois vœux de religion, nous offrons à Dieu tout ce que nous avons de bon, par l'aumône notre travail, par la prière nos âmes, par le jeûne nos corps. C'est pour ça qu'on dit que lorsque un moine fait sa profession solennelle sur les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, ça correspond à un martyr. Comme un martyr, c'est un deuxième baptême, en quelque sorte. Et la théologie de l'Église enseigne que lorsqu'un religieux fait sa profession solennelle sur les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, c'est comme un martyr. Et donc, ça peut effacer aussi toutes les conséquences des péchés et des âmes du purgatoire. C'est pour ça que lorsqu'un moine qui n'est pas encore prophétique, qui n'a pas encore fait sa profession solennelle meurent ou se sont lits de mort, très souvent, le supérieur lui accorde la grâce de faire ses trois vœux en anticipation. J'ai un ami prêtre qui est mort comme ça, bénédictin, l'abbé Schaeffer, que je connaissais au séminaire, et qui était un très bon prêtre qui est mort il y a longtemps chez les bénédictins. Et donc il est mort, il n'avait pas encore fait sa profession solennelle, mais il a fait sa profession in articulo mortis, c'est-à-dire sur le lit de mort, à l'article de la mort. Et donc devant le père abbé va venir, il y a une cérémonie solennelle où, avant de mourir, il fait sa profession solennelle qui correspond à un martyr, littéralement, et donc qui efface toutes les peines du purgatoire. Donc ça, on appelle ça un deuxième baptême. Non ? Enfin, anagogiquement, je rappelle anagogiquement, c'est le sens qui représente ce qui se passera à la fin du monde. Saint Maximin pense que par l'or est représentée la rédemption de l'homme, par l'encens la religion chrétienne, par la mire la résurrection. Pourquoi ? Parce que la mire préserve de la corruption. Et l'absence de corruption représente justement la résurrection. Vous voyez, c'est des choses magnifiques. Certainement, les pères de l'Église là, ont été inspirés de façon extraordinaire par ces commentaires sur les trois dons. Et c'est intéressant. Voyez, ce qu'il faut faire, vous voyez, c'est, après avoir lu soigneusement le texte polycopié qui résume l'enseignement des pères, avoir écouté éventuellement, si j'ai le temps, écouter la conférence que je donne pour expliquer tout ça, c'est après laisser un peu quelques jours passer pour faire mijoter un peu les choses, et après relire lentement le texte évangélique. Et en relisant le texte évangélique, à ce moment-là, on peut utiliser en quelque sorte tout ce qui a été donné par les pères comme une espèce d'engrais, si vous voulez, qui va faire pousser la dévotion. Vous voyez ? Sinon, ça va être le problème des modernes. Ils vont voir un texte comme ça. Ayant ouvert leur trésor, ils doivent offrir pour présent l'or, l'encens, la myrrhe. Bon, d'accord, ils vont faire l'or, l'encens, la myrrhe. Allez, on passe au point suivant. Tiens, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est que l'or ? Qu'est-ce que c'est que l'encens ? Qu'est-ce que c'est que la myrrhe ? Pourquoi l'or ? Pourquoi l'encens ? Pourquoi la myrrhe ? Quand on explique l'or, attention, c'est pour le roi, c'est la sagesse, c'est le vœu de pauvreté. La myrrhe, c'est pour l'homme, c'est la pénitence, c'est le jeûne, c'est la mortification de la chair, c'est le vœu de chasteté. Et l'encens, c'est Dieu, la prière, l'obéissance. Ben, ça change tout. Voyez ? Et ça, il faut faire très attention, parce que je l'ai déjà dit au début de ce cours, dans l'introduction, je crois que un des signes des modernistes, c'est le mépris des pères de l'Église. On voit ça chez Saint Pédis, dans le prochain sermon, c'est le sermon de dimanche prochain. Je ne l'ai jamais mis sur le site d'Anne Marie, donc c'est un sermon où je vais parler de Saint Thomas d'Aquin. Et on trouve des textes de Saint Pédis et de Léon XIII. C'est Léon XIII et Saint Pédis qui ont remis en valeur la philosophie, la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Et justement il en parle. Saint Pédis en parle et explique bien que un des signes du modernisme, c'est le mépris de l'Écriture sainte qui est la tradition des pères. Donc, celui qui, au contraire, à l'amour des pères, j'irais, est sûr de conserver sa foi. Moi, je voyais déjà au séminaire les prises de bec, on avait des prises de bec importantes dans les récréations, justement sur tous ces principes-là, avec des séminaristes qui étaient des modernistes littéralement en matière d'exégèse. Bon, parce que malheureusement, moi j'avoue que les cours d'exégèse que j'ai reçus au séminaire étaient nuls. C'est un truc qui n'allait pas du tout. On ne nous en a pratiquement jamais parlé de ce sens mystique, de ce sens spirituel, qui est l'explication des pères. Et c'est très dommage parce que il y a énormément de choses. On n'a pas eu le temps, et moi j'ai pas eu le temps dans ma formation, on est que 5 ans nous, au lieu de 6. On n'a pas eu le temps de tout faire. J'ai pas eu vraiment un bon cours d'exégèse. Je regrette bien. Heureusement qu'après j'ai travaillé et préparer ces cours fait un bien considérable. Donc ça m'oblige à travailler. Tant pour l'exégèse que pour Saint Thomas d'Aquin. Mais je pense que la règle, la conclusion, c'est ayez l'esprit d'Église. Pensez comme les pères ou pensez comme l'Église. Quand les gens me font la remarque, parce que ça arrive, ouais, mais vous parlez toujours des sens mystiques de l'Évangile, sens spirituel de l'Évangile. Les modernes, ils parlent plus comme ça. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment parler les pères. Est-ce que les pères de l'Église, qui sont ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte, que ni vous ni moi on a, et qu'eux avaient, Est-ce qu'ils prêchaient comme les modernes ou est-ce qu'ils prêchaient comme moi je prêche personnellement? Eh bien, ils sont obligés de reconnaître, oui, c'est vrai que les pères, ils en parlent tout le temps. Eh bien, ça suffit. À partir du moment où je m'aligne sur ce que faisaient les pères, je suis sûr pas être dans le fond, parce que les pères de l'Église, c'est la tradition de l'Église. Voyez. Alors, donc page 14, alors là, je ne vais pas commencer ça parce que c'est un sujet un peu différent. Donc, on a fini l'offrande des mages. Et donc, page 14, verset 12, « Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. » Alors, vous verrez qu'il y a encore des tas d'explications données par les pères sur ce petit bout de phrase. « Ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. » Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer avec les pères que ça veut dire que lorsqu'on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ par une retraite, par une bonne confession, on ne repart pas par le même chemin. Il faut changer de vie. Et c'est magnifique. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.